Le bonheur, c'est ici, c'est ici. D'ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Le bonheur, c'est ici, c'est ici. D'ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.
Fidèle auditeur, fidèle auditrice, vous ne vous êtes pas du tout trompé. Rassurez-vous, vous avez vraiment très bien fait d'être à l'écoute. Et je suis vraiment très très ravi de vous retrouver dans le cadre de ce magnifique rendez-vous. Je suis sûr que par la grâce du Seigneur, nous allons certainement passer d'agréables moments. Parce que on n'écoute jamais en vain la parole du Seigneur, surtout le thème qui nous intéresse. Qui peut se comparer à cet homme, Jésus-Christ. Et c'est le résumé et la conclusion. Puisque un grand thème a été ouvert, qui peut se comparer à Jésus-Christ. C'est ce grand thème que nous avons décortiqué pendant un bon bout de temps. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement résumer et conclure. Qui peut se comparer à cet homme? Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce magnifique moment. Certainement, ce n'est pas en vain que tu nous as permis de nous retrouver pour pouvoir partager ta très sainte et bonne parole. Merci de bénir ta parole dans les cœurs, dans les vies. Merci pour les grandes choses que tu vas faire dans la vie de ces personnes qui vont écouter avec une oreille très très attentive et avec foi. À toi la gloire, les honneurs, les acclamations pour l'éternité, parce que tu es vraiment digne. Merci pour tout ce que tu vas faire. Amen. Amen. Recevez, recevez, recevez les sincères et chaleureuses salutations. C'est dans le merveilleux, magnifique et tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ que je vous salue et je vous bénis également. Et d'ici là, je vais vous communiquer les différents numéros qui vous permettent de réagir par message pendant l'émission. Et après l'émission, vous pouvez réagir également en appelant si vous estimez que je peux vous être utile. Et je tiens à signaler que cette émission n'appartient pas à une organisation religieuse. Cette émission, c'est l'une des rares émissions qui parle de Dieu sur terre sans appartenir à une religion, sans faire la publicité d'une religion, sans vous conduire à une religion. Oui, l'une des rares émissions qui parle de Dieu sans faire la publicité d'un homme ni d'un système religieux. Et c'est au moins un mérite qu'il faut attribuer à cette émission. Donc, dans cette émission, il n'y a que la parole du Seigneur qui est proclamée, un point, et c'est tout. Et comme je le disais tantôt, nous allons résumer et conclure ce grand thème qui peut se comparer à Jésus-Christ, à cet homme qui peut se comparer à Jésus-Christ. Et nous avons vu que Jésus-Christ, dès par sa naissance, il est unique. Il est unique en son genre. Il est le seul qui a vu sa naissance être annoncée les centaines d'années avant que cela ne se réalise avec une exactitude étonnante. Presque tous les prophètes de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament, ont parlé de la venue du Seigneur Jésus-Christ et de son œuvre sur terre. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est écrit que Dieu lui-même va faire un clin d'œil à la terre. Et lorsqu'il va faire un clin d'œil à la terre, qu'est-ce qui va se passer? La Vierge va devenir enceinte. Elle va enfanter un fils. Elle va enfanter un fils à qui on va donner le nom de Emmanuel, Dieu avec nous. Et cette prophétie, c'est 700 ans environ, oui, c'est 700 ans environ avant que cela ne se réalise avec la venue de cet enfant, pas comme les autres. Cet enfant qui est Dieu avec nous. Alléluia. Et déjà, depuis sa naissance, Jésus-Christ, il est unique. Il est unique. Et le jour même de sa naissance, nous lisons dans Luc chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 14, que ce sont les anges qui se chargent d'annoncer, oui, que la terre a accueilli un personnage pas comme les autres. Le Sauveur, le Christ, celui qui va venir avec la joie. Alléluia! C'est vraiment merveilleux. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un sur cette terre qui a eu ce privilège? À savoir, voir sa venue être annoncée par les anges. Et la Bible nous dit qu'il y avait également un grand concert au ciel à cause de la venue sur terre de cet homme, Jésus-Christ. Déjà, nous voyons que, en ce qui concerne sa naissance, sa venue, Jésus-Christ, qui peut se comparer à lui à ce niveau, qui a eu ce privilège. Si vous connaissez une personne qui a eu ce privilège, réagissez et dites, telle personne a eu ce privilège de voir sa naissance être annoncée des centaines, voire même des milliers d'années avant, et que le jour que cette personne est venue au monde, les anges sont venus annoncer et il y a eu un concert au ciel. Et nous avons bien entendu lu dans les Écritures que même lorsque Jésus-Christ décide de venir sur terre, c'est par le Saint-Esprit qu'il est conçu. Y a-t-il un être humain sur cette terre qui a eu ce privilège? Oui, de voir le Saint-Esprit être à l'origine de sa conception. Jésus-Christ, à ce niveau, il est également unique en son genre, qui peut se comparer à cet homme. Jésus-Christ, si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue. C'est le thème qui nous intéresse, qui peut se comparer à cet homme, Jésus-Christ. C'est le résumé et la conclusion de ce que nous avons partagé pendant un bon bout de temps. Et dans Luc chapitre 2, à partir du verset 42 au verset 50, nous lisons que lorsque Jésus-Christ avait 12 ans, un jour ils se sont retrouvés à Jérusalem. C'était la fête de la Pâque. Et après la fête, ses parents terrestres, à savoir Marie et Joseph, c'est après avoir parcouru une bonne distance qu'ils se rendent compte que Jésus-Christ n'est pas avec eux. Et ils décident de retourner à Jérusalem pour chercher le petit enfant. Et pendant plusieurs jours, ils vont fouiller l'enfant. Et après 3 jours, ils retrouvent Jésus, enfin. Et où est-ce qu'ils retrouvent Jésus? Ils le retrouvent pas dans un casino, pas dans un bar, pas dans une boîte de nuit. Ils retrouvent Jésus tout simplement au temple. Et ils vont dire à Jésus, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Nous t'avions tellement cherché Jésus. Et ce que Jésus-Christ va répondre est interpellant. Il va répondre ceci. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia. Amen. À 12 ans, Jésus-Christ, il était déjà conscient de sa mission sur terre. Il y a beaucoup qui ne savent pas pourquoi ils sont sur terre. Jésus-Christ, à 12 ans, il savait déjà pourquoi il était sur terre. Il était sur terre pour s'occuper des affaires de Dieu. La plus grande affaire. Beaucoup de gens disent, je suis un homme d'affaires, je suis une femme d'affaires. Sachez qu'au-delà de toutes les affaires que vous pouvez faire sur terre, il y a la plus grande affaire qui est l'affaire de Dieu. C'est la plus grande affaire. Il n'y a pas une affaire qui dépasse cette affaire, l'affaire de Dieu. Et Jésus-Christ, il est venu sur terre pour s'occuper de cette grande affaire qui est l'affaire de Dieu. L'affaire du salut de l'humanité. Alléluia. Et je veux vous interpeller en disant, peu importe votre position, peu importe les affaires que vous faites, même si ça prospère tellement, si vous n'avez pas encore Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous n'avez pas encore le salut de votre âme, sachez que vous êtes passé à côté de la plus grande affaire, l'affaire du salut. C'est une très grande affaire. Il faut vraiment vous asseoir et régler les choses à ce niveau. Sinon, lorsque vous allez quitter la terre, vous n'allez pas partir avec vos affaires. Oui, avec vos entreprises, avec vos boutiques et votre argent, vous allez laisser tout cela sur terre. Et c'est en ce moment que vous allez vous rendre compte que vous avez fait tellement des affaires sur terre, mais vous avez négligé la plus grande affaire qui est le salut de votre âme. Là où vous allez passer votre éternité, après votre passage sur terre. Oui, vraiment, je vous en supplie et je vous encourage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites la paix avec Dieu, acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et intéressez-vous au salut de votre âme. C'est une très grande affaire. Oui, c'est la plus grande affaire du monde et la plus grande affaire de l'univers, l'affaire du salut de son âme. Bienvenue à vous si vous venez de vous joindre à nous. Nous sommes en train de résumer et conclure un thème. Ce thème qui est tout simplement qui peut se comparer à cet homme. Jésus-Christ. Et comme promis, je vous communique ces différents numéros avant de continuer. Si vous avez des préoccupations, sentez-vous libre de les exprimez par message pendant l'émission. Et après l'émission, vous pouvez appeler si vous le souhaitez. Le 696-36-25-40 et le 677-61-93-77. Je reprends ces deux numéros pour vous. Le 696-36-25-40 ou le 677-61-93-77. Sans protocole, envoyez vos messages pendant l'émission et appelez après l'émission si vous le souhaitez. Il y a un site internet à votre disposition, www.pasteurrodrigue.com www.pasteurrodrigue.com. Visitez ce site. Vous allez y retrouver des choses intéressantes que vous pouvez télécharger gratuitement, que ce soit en brochure, en audio et même en vidéo. Et ce site a été conçu en deux versions. Il y a une version pour mobile et une version pour ordinateur. Donc, lorsque vous l'ouvrez à partir de votre ordinateur, ce n'est pas la même version que vous l'avez sur vos smartphones ou sur vos téléphones. Et il y a également deux pages Facebook à votre disposition. Rodrigue Genji, bien entendu. Et la deuxième page Facebook, c'est Jésus-Christ est l'ultime solution. Visitez ces pages et vous allez y retrouver des choses intéressantes. D'ailleurs, cette émission, elle est également en direct sur Facebook et si prêt à Dieu, après, elle va se retrouver sur mes différentes pages Facebook. Et nous allons continuer à nous intéresser à ces quelques portions de Saintes Écritures qui vont nous aider à conclure ce grand thème, à savoir qui peut se comparer à cet homme. Jésus-Christ. Nous allons nous intéresser également à sa vie morale. Sa vie morale. Dans Jean 8, verset 46, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Qui de vous me convaincra des péchés ?» Qui de vous me convaincra des péchés ? Donc Jésus-Christ dit, « Qui peut lui dire que tu as péché, tu as commis un seul péché ?» À partir de là, le Seigneur Jésus-Christ revendique une moralité parfaite. Alléluia. Qui de vous me convaincra de péché? A dit le Christ. Il était en face de ses ennemis, en face de ses adversaires, qui cherchaient les moindres occasions pour pouvoir l'accuser, l'arrêter. Et il lance ce défi. Qui de vous me convaincra de péché? Et plus tard, voici ce que l'apôtre Pierre va dire de lui. Je vais chercher à partir d'ici et je vais lire pour nous tous. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 22. Il est écrit, je lis pour nous tous, « Jésus, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Alléluia, alléluia. Lui qui n'a point commis de péché. Donc, Jésus-Christ est le seul être humain ayant vécu sur notre planète et qui n'a jamais péché. Et la Bible nous dit que dans sa bouche, il n'y avait point de fraude. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, même dans sa bouche, il n'y a jamais eu de fraude. C'est vraiment merveilleux. Et à ce niveau, qui peut également se comparer à Jésus-Christ. Beaucoup des fondateurs des religions ne sont que des pécheurs. Parfois, on veut les comparer à Jésus-Christ. Il y a même certains fondateurs de religions qui ont donné des lois et qui ont fini par transgresser eux-mêmes les lois qu'ils ont données. Et c'est normal, ils ne sont que des pauvres créatures. Mais Jésus-Christ, lui à ce niveau, il est incomparable. C'est lui seul qui n'a jamais péché. Alléluia. Tous les prophètes ont péché. Tous les fondateurs des mouvements religieux ont péché. Ah oui! Et à ce niveau, n'essayez pas de comparer Jésus avec ses prophètes et avec ses fondateurs des mouvements religieux. Peu importe le nom de ce mouvement religieux. Et nous allons également voir que Jésus-Christ, en œuvre, il a fait beaucoup de choses. Il a fait tellement de choses. Si nous nous intéressons par exemple à ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, à partir d'ici, je veux chercher et je veux lire. Il est écrit ceci. Si vous relevez pour pouvoir vérifier dans vos Bibles, tant mieux. Je dis, acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Alléluia. Et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. La Bible nous dit, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il allait de lieu en lieu. Pourquoi faire? Tout simplement pour aider les gens, pour faire du bien, pour guérir les malades et délivrer tout cela et tout cela qui était sous l'empire du diable. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et voilà la vie de Jésus. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour s'enrichir. Il est venu tout simplement pour aider les gens, pour sauver, pour faire du bien, pour guérir, délivrer les captifs et libérer les êtres humains de leur captivité. C'est vraiment merveilleux. Qui peut se comparer à Jésus-Christ en œuvre et en bien. Alléluia. Nous allons également voir que même en parole, Jésus-Christ, il est unique. Personne ne peut se comparer à lui. Par exemple, un jour, nous sommes dans Jean chapitre 7, à partir du verset 32. On va envoyer les huissiers pour arrêter Jésus. Et les huissiers vont revenir bredouille sans Jésus. Et lorsque les pharisiens vont poser cette question, mais pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Les huissiers vont dire, nous avons pris la peine de l'écouter. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Alléluia. Alléluia. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Quand on dit personne, c'est vraiment personne. Donc, Jésus-Christ en parole, il est unique. Il est incomparable. Et par conséquent, il faut écouter cet homme. Faites tout pour l'écouter. Faites tout pour entrer en contact avec son message. Faites tout pour entrer en contact avec ses conseils. Faites tout pour entrer en contact avec sa parole. Ah oui, lui-même va dire, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Donc les discours des politiciens vont passer. Parfois, les politiciens, pendant les campagnes, ils font toutes sortes de promesses et après, on n'en parle même plus. C'est normal. Mais Jésus-Christ, lui, il est différent. Ses paroles sont éternelles. Et il veille afin que ses paroles puissent s'accomplir dans les moindres détails. Et c'est vraiment merveilleux. La seule personne qui n'a jamais fait un discours électoral juste pour être voté, non. Il est parlé selon la vérité pour aider les gens, pour amener les gens à connaître Dieu, à connaître la vérité, à être sauvés et avoir une meilleure vie sur terre. Et nous allons également voir que même en miracle, Jésus-Christ, il a battu tous les records. Par exemple, dans Jean 20, versets 30 et 31. Nous lisons ceci. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, la Bible. Nous lisons là que les miracles que nous retrouvons dans la Bible, Jésus a fait même plus que cela. Et on n'a pas pu écrit tout cela dans la Bible. Et lorsque nous voyons ce qu'il y a déjà dans la Bible, et que nous lisons qu'on n'a pas écrit beaucoup d'autres miracles que Jésus-Christ a fait, ça veut dire qu'il a fait tellement de miracles sur terre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Dieu veut que vous ayez la vie en croyant au Seigneur Jésus, en l'acceptant. Ah oui, c'est la parfaite volonté de Dieu. Et ce n'est que en Jésus-Christ que vous pouvez avoir la vie. Et nulle part ailleurs. Donc, Jésus-Christ, nous avons vu, il n'y a pas longtemps, que même en miracle, il avait vraiment les miracles. Et dans Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 13 au verset 21, dans cette portion des Saintes Écritures, nous allons voir le Seigneur Jésus se préoccuper des multitudes qui avaient faim. Et il ne voulait pas que ces gens-là, qu'il avait suivis pendant plusieurs jours sans manger, rentrent sans avoir mangé. Et il va tout faire pour nourrir ces multitudes. Et il sera obligé de faire un miracle. Il va multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et nous lisons que, entre autres, Jésus-Christ n'a pas fait cela seulement parce qu'il était capable de faire des miracles. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a aussi fait ce grand miracle? La Bible nous dit, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Au verset 13 d'abord, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Jésus voulait se retirer un peu, mais la foule a décidé que tu ne dois pas te retirer. La foule l'a suivi. Et c'est là que nous lisons, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Jésus fut ému de compassion. Il a eu pitié de cette foule. Et c'est après avoir guéri également les malades, à cause de la compassion qui l'animait, il va également multiplier les pains pour nourrir ces multitudes. Alléluia! En compassion, Jésus-Christ, il est incomparable. Jésus-Christ ne se contente pas seulement de dire, « Ouais, ta situation là est vraiment grave, on va faire comment ?» Non, Jésus-Christ ne se contente pas seulement de lancer ce genre de paroles. Jésus, quand il a compassion, il agit. Alléluia! Donc la compassion le pousse toujours à l'action. Et quand Jésus a pitié de vous, il agit dans votre vie. Et sachez-le, personne ne peut se comparer à Jésus-Christ en compassion. Faites-lui confiance. Tournez-vous vers lui. Recommandez-lui votre vie et votre sort. Peu importe la situation que vous êtes en train de traverser, les difficultés, personne ne peut vraiment vous aider. Beaucoup peuvent essayer de compatir, mais seulement par les paroles. Mais Jésus, il va au-delà des paroles. C'est un homme d'action. Donc, lorsque Jésus-Christ a pitié de vous, il agit dans votre vie. Vous pouvez lui faire confiance. Non seulement il aura pitié de vous, il agira. Alléluia! Même si vous avez péché, vous lui dites, Seigneur, pardonne-moi, je reconnais que je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Dans sa pitié, il va vous pardonner. Il va vous purifier et il va vous laver, il va vous délivrer, il va vous sauver. Alléluia! La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est là le Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Même en compassion, il est unique. Sachez que vous êtes en train d'écouter une émission qui parle de Dieu, mais sans faire la publicité d'une religion. Et le thème qui nous intéresse, c'est qui peut se comparer à cet homme. En fait, c'est le résumé, la conclusion de ce grand thème que nous avons partagé pendant un bon bout de temps. Et Si vous n'avez pas pu prendre ce numéro, ou bien si vous venez de vous connecter, je vous communique rapidement ces différents numéros qui vous permettent d'envoyer vos messages pendant l'émission et appeler après l'émission si vous le souhaitez. Je vous communique une fois de plus ces numéros rapidement. Le 696-36-25-40 ou le 677-61-93-77. 696-36-25-40 ou le 677-61-93-77. Il y a un site à votre disposition, le site internet sur lequel vous pouvez vous connecter, télécharger tout ce qui vous intéresse gratuitement. Oui, ce site c'est tout simplement www.pasteurrodrigue.com. Et nous allons également nous intéresser à ce verset 21 de Matthieu chapitre 16, où Jésus-Christ dit à ses disciples, nous montons à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, on va se moquer de moi. On va même cracher sur moi. On va me battre de vèches. Je vais même mourir. Mais 3 jours après, je ressusciterai. Jésus-Christ ici annonce ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Et Jésus-Christ non seulement il annonce longtemps d'avance ce qu'il va vivre à un moment donné de son ministère terrestre, et surtout au menu il n'y a pas seulement que le rejet, la trahison, la souffrance, il y a aussi la mort. Et le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous lisons après qu'il soit mis à mort? Nous sommes là dans Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez voir le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Amen, amen, amen. Et elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Alléluia. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Amen. Jésus-Christ, qui 3 jours après la mort revient à la vie. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu la mort. Devant la mort, face à la mort, qui peut se comparer à cet homme? Qui peut se comparer à cet homme? Jésus-Christ, tous les prophètes qui ont vécu, et même les fondateurs des mouvements de religieux, sont morts. Ils sont dans la tombe. Ils attendent la résurrection et le jugement. Et c'est toujours Jésus-Christ qui va les juger. Parce qu'il est écrit que Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Alléluia! Qui peut se comparer à cet homme? Jésus-Christ. N'essayez pas de comparer Jésus au fondateur de votre religion, à votre prophète qui est mort. N'essayez pas de le comparer à votre prophète. Il est tout simplement incomparable. Alléluia et gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons continuer à nous intéresser aux œuvres de Jésus-Christ. Maintenant, je vous en supplie. Je vous en supplie, soyez encore très très attentif, très très attentif, parce que ce que nous allons voir est vraiment très très important. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 3, verset 4, lorsqu'on dit que Jésus-Christ est mort, mais pourquoi est-ce qu'il est mort? Lui, il n'a jamais péché. C'est le salaire du péché qui est la mort. Mais Jésus n'a jamais péché. Pourquoi est-il mort? La Bible nous dit, il est mort pour vos péchés. Il est mort pour vos péchés. Alléluia. Et vous deviez le savoir, Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Dans Hébreux, chapitre 10, les quatre premiers versets, il est écrit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre de digne à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ici, il est écrit que même dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse et après Moïse, tous ces sacrifices qu'Israël faisait, en réalité, n'ôtaient pas le péché. Voilà pourquoi ils étaient obligés de faire cela chaque fois. Et si ces sacrifices pouvaient ôter les péchés, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de faire cela chaque fois. C'est qu'après avoir fait ces sacrifices, les péchés devaient être ôtés une fois. Mais ces sacrifices d'animaux, la Bible nous dit clairement, ne pouvaient pas ôter les péchés. Voilà pourquoi Dieu a trouvé un moyen unique et parfait pour ôter les péchés des hommes. Et ce n'est pas un animal qui a été offert. Ce n'est pas un bouc. Ce n'est pas un bélier, une chèvre, un chameau, une poule. C'est Jésus-Christ qui a versé son sang pour ôter vos péchés. Et je vais laisser tout simplement parler les Saintes Écritures. Je vous ai dit vraiment de prêter une oreille très très attentive. Nous allons nous intéresser à ce qui est écrit dans 1 Jean. Oui, l'apôtre Jean, dans l'une de ses lettres, va nous dire ceci. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. Le verset 5 nous dit ceci. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui des péchés. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ, parce qu'il est le seul qui n'a jamais péché, il pouvait se donner pour les pécheurs. Et il a paru pour ôter le péché. Donc Jésus-Christ est venu sur terre pour ôter vos péchés par son sacrifice unique à la croix. Donc le sang de Jésus qui a coulé a remplacé les sacrifices d'animaux que Israël faisait dans l'Ancien Testament. Alléluia. Voilà une œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Est-ce qu'il y a une seule personne sur cette terre qui a fait une telle chose? Donner sa vie pour ôter les péchés des êtres humains. Qui peut se comparer à cet homme? Jésus-Christ. Et nous lisons dans Hébreux chapitre 10 ceci. Je vais chercher à partir d'ici et je vais lire pour nous tous. J'ai dit Hébreux chapitre 10. Il est écrit, verset 10, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » La Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, le prêtre ou le souverain prêtre, par exemple comme Aaron, il faisait des sacrifices qui ne pouvait pas ôter les péchés. Alors que Jésus-Christ, Alléluia. Il s'est donné une seule fois pour toutes. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Donc, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, vos péchés sont ôtés une seule fois. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié une seule fois. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et dans Hébreux chapitre 9, le verset 14 nous dit ceci. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il est comme un agneau sans tâche, pur, parce qu'il n'a jamais péché. La Bible nous dit que son sang est capable de vous purifier et de purifier même votre conscience des œuvres mortes. Donc vous n'avez même plus la culpabilité de vos péchés. C'est ce que le sang de Jésus-Christ fait dans la vie de toute personne qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur en se repentant sincèrement. Alléluia. Alléluia et gloire à notre Dieu qui peut se comparer à cet homme, Jésus-Christ. Nous sommes là en train de voir ses œuvres et entre autres, nous voyons qu'à ce niveau, il a fait une œuvre unique en son genre. Et si nous lisons également à partir du verset 25 au verset 26 de ce Hébreux chapitre 9, il est écrit « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain prêtre entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Amen. Jésus-Christ est venu, il a fait un sacrifice unique et parfait pour ôter les péchés, pour abolir les péchés. Voilà ce que Jésus-Christ fait dans la vie des êtres humains. Alléluia, alléluia, si le monde va mal, c'est le péché qui est à l'origine. S'il y a la guerre, s'il y a le trouble, si vous creusez très bien, c'est le péché. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit, il peut ôter les péchés des êtres humains. Et quand il ôte vos péchés, vous devenez enfant de Dieu, vous avez l'Esprit du Dieu vivant et vous pouvez maintenant servir le Dieu vivant. Si le monde va mal, c'est parce que les gens ne servent pas le Dieu vivant. Les gens servent que le diable. Les gens sont esclaves du diable, esclaves du péché. Voilà pourquoi je vous ai dit, prêtez une oreille très très attentive. Ce que nous sommes en train de partager, c'est vraiment très très important. Parce que c'est là que se trouve le problème de l'humanité tout entière. Vous avez beau être éduqué, avoir toutes sortes de diplômes, ça ne peut pas ôter vos péchés. Peu importe votre position sociale. Ça ne peut pas ôter vos péchés. Peu importe vos richesses, ça ne peut pas ôter vos péchés. Peu importe votre religion, ça ne peut pas ôter vos péchés. Et dans Hébreux, toujours, cette fois-ci, chapitre 7, à partir du verset 23, je vous en supplie, écoutez. De plus, il y a eu des prêtres, de plus, il y a eu des prêtres en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain prêtre comme Jésus. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, est plus élevé que les cieux. Lui, Jésus qui n'a pas besoin comme les souverains prêtres, Jésus qui n'a pas besoin comme les souverains prêtres d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci Jésus l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alléluia, amen. Il est écrit ici que les souverains prêtres dans l'Ancien Testament étaient obligés d'offrir d'abord des sacrifices pour demander pardon à Dieu pour leurs propres péchés d'abord. Avant de voir s'ils peuvent demander pardon à Dieu pour les péchés du peuple. Alors que Jésus-Christ, il n'a pas eu besoin de demander pardon à Dieu pour ses péchés parce qu'il est sans tâche, il n'a jamais péché. Et la Bible nous dit que à un moment donné, les prêtres devaient mourir et céder place à d'autres qui vont venir les remplacer. Mais Jésus-Christ, lui, Il est un souverain prêtre qui est éternel. Il ne doit jamais céder sa place à qui que ce soit parce qu'il est éternel. Il est éternel. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il convenait d'avoir un tel souverain sacrificataire. Et voilà, il est venu. Donc, il vous parlait quelqu'un comme Jésus. Et Jésus, il est là. Si vous le laissez, et si vous négligez Jésus, c'est du suicide. Vous êtes en train de vous suicider spirituellement et à tous les niveaux. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous dit que parce que Jésus-Christ demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, personne ne peut prendre la place de Jésus. Malheureusement, il y a beaucoup qui disent qu'ils vont remplacer Jésus sur terre. Ce sont les agents du diable. Ah oui. Toute personne qui essaie de remplacer Jésus à quelque niveau que ce soit, c'est un agent du diable. La Bible dit, personne ne peut remplacer Jésus et son ministère. Alléluia. Parce qu'il est toujours vivant. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Il sauve encore aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. Il pardonne encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Il donne la vie éternelle encore aujourd'hui. Pourquoi le laisser pour prier les anges, pour prier qui, je ne sais qui, ne sais quoi? Jésus-Christ, il est vivant pour toujours. Alléluia. Et nous pouvons également lire ceci dans Hébreux chapitre 4. Je vais lire à partir d'ici les versets 14, 15 et 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen, c'est sublime. La Bible nous dit que Jésus-Christ n'est pas comme les autres. Bien au contraire, il a vraiment vécu sur terre. Il a été tenté, mais il n'a jamais péché. Alléluia. Et parce que Jésus-Christ a été tenté, lorsque vous êtes tenté, il connaît, il peut vous aider. Parce qu'il a été tenté, mais il n'est pas tombé dans la tentation. Alléluia. Et la Bible nous dit que tu peux t'approcher de lui avec confiance. Il va t'écouter si tu es sincère. Il va te sauver si c'est le salut que tu veux. Si tu as besoin d'aide, il t'aidera. Si c'est de l'aide dont tu as besoin. Alléluia. Parce que il est un souverain très grand prêtre, pas comme les autres. Alléluia. Qui peut se comparer à cet homme? Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a une personne qui a fait une telle œuvre sur terre, qui peut faire une telle œuvre? Et dans Jean chapitre 3, nous allons lire ceci. Jean, chapitre 3. Je cherche, et je vais lire pour nous tous. Nous allons d'abord nous intéresser au verset 13. Il est écrit, Jean, chapitre 3, verset 13. Écoutez, je vous en supplie. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. C'est Jésus qui parle ici. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Jésus nous dit ici que il est le seul qui est descendu du ciel. Il est le seul qui est descendu du ciel. Donc le seul être humain ayant vécu sur la planète Terre, mais qui est descendu que du ciel. Voilà pourquoi dans Hébreux, la Bible nous dit que Jésus-Christ, il a traversé le ciel. Donc Jésus connaît le ciel. Le ciel, c'est son ciel. Lorsque vous allez arriver là-bas, c'est Jésus que vous allez trouver. Il n'y a pas une autre personne. Alléluia, alléluia. Et toujours dans Jean 3, verset 31, il est écrit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. » Et il parle comme étant de la terre. « Et celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. » C'est sublime. Jésus, puisqu'il est venu du ciel, il est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tout, de tout pouvoir, de toute autorité, de toute principauté. Il est au-dessus de tout démon. Alléluia. Ça veut dire que quoi? En Jésus, vous êtes sûr que vous avez choisi, oui, la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Jésus, c'est le bon côté. C'est la bonne part. Jésus est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout pouvoir. Donc, il n'y a pas un démon qui est au-dessus de Jésus. Il n'y a pas une puissance satanique qui est au-dessus de Jésus. C'est Jésus qui est au-dessus de tout. Et il n'y a aucune religion, aucun prophète qui est au-dessus de Jésus. Jésus, il est au-dessus de toutes les religions. Il est au-dessus de tous les prophètes. Voilà le pourquoi accepter Jésus et non une religion. Accepter Jésus, prier Jésus et non un ange. Et même pas sa mère. La Bible dit Jésus, il est au-dessus de tout. Même au-dessus de sa mère. Priez Jésus, invoquez Jésus, acceptez Jésus. Vous n'allez jamais le regretter. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui peut se comparer à cet homme? Jésus-Christ. Bien sûr que nous sommes en train de conclure ce grand thème. Qui peut se comparer à cet homme Jésus? C'est le résumé, la conclusion. Et pour finir, dans Jean, chapitre 1er, il est écrit, « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et le verset 14 nous dit quoi? « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Alléluia, et nous avons contemplé sa gloire. Donc, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Dieu qui est habité dans un corps d'être humain pour accomplir une œuvre que personne ne pouvait accomplir, si ce n'est Dieu lui-même. À savoir, sauver ses créatures, donner la vie éternelle à ses créatures, donner le pardon à ses créatures, donner la délivrance totale à ses créatures, donner de l'espoir à ses créatures, délivrer ses créatures des liens de Satan, oui, des liens du péché. Et donner une vie en abondance. Alléluia! Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui peut se comparer à cet homme? Jésus-Christ. Personne. 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 Alléluia! Alors, qu'attendez-vous donc? Qu'est-ce que vous hésitez encore pour venir à Jésus? Qu'est-ce que vous attendez pour l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce que vous attendez pour vous consacrer à lui, pour le servir? Qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez plus! N'hésitez plus! Ne passez pas à côté de l'essentiel. Si vous passez à côté de Jésus, c'est que vous êtes passé à côté de l'essentiel. Alléluia, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est au-dessus de tout. Il est la vie. Merci Seigneur pour ta parole. Je crois que ta parole est la vérité et tu es la vérité. Personne ne peut vraiment se comparer à toi. Tu as fait ce que personne n'a jamais fait et que personne ne fera. Tu es tout simplement parfait dans tes œuvres. Oh Seigneur, c'est toi qui donnes le pardon, la purification, la délivrance. C'est toi-même qui as payé le prix comme un agneau parfait en laissant couler ton sang. Par ton sang, tu ôtes les péchés des pécheurs, des pécheresses. Seigneur, je te dis merci. Je prie que toute personne qui a l'écoute, qui est encore dans ses péchés, que tu lui accordes ta divine grâce, afin que ton sang que tu as versé pour ôter ses péchés, Seigneur, que cela puisse vraiment être le partage de cette personne. Si cette personne est à la recherche du pardon et du salut, pardonne cette personne, purifie cette personne, ôte les péchés de cette personne et donne le salut à cette personne. Seigneur, tu es celui qui est compatissant. Personne n'est compatissant comme toi. Aie pitié de ces personnes qui sont à l'écoute et agis dans leur vie. Seigneur, en parole, tu es unique. Dans ta bouche, il y a les paroles de la vie, les paroles de la vie éternelle, les paroles de grâce. Seigneur, je te prie afin que tu puisses accorder ta divine grâce à ces personnes, afin que ces personnes puissent vraiment prendre du temps pour t'écouter. Ah oui, parce que tes paroles, Seigneur, donnent la consolation, donnent la délivrance, tes paroles donnent la vie. Seigneur, je te rends vraiment grâce. Il est écrit que tu soutiens ta parole, pas des prodiges, des miracles. Je prie qu'il en soit ainsi. Toute personne, en quelque lieu que ce soit, qui écoute avec foi, agit, fait des prodiges, des miracles dans la vie de cette personne pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Pas à cause de nos mérites, mais à cause de ton amour infini. Seigneur, je te confie notre belle nation qui est en difficulté afin que tu puisses toucher le cœur. Oh Seigneur, donne aux uns aux autres de comprendre qu'on doit t'accepter, on doit te suivre. Tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. En dehors de toi, il n'y a point de vie, il n'y a point de délivrance, il n'y a point d'espoir. Seigneur, je te confie notre ville, notre département. Je te confie ces orphelins, ces veuves, ces prisonniers, ces laissés pour compte dans les maisons, dans les hôpitaux. Merci Seigneur de te manifester puissamment et que toute la gloire te revienne. Alléluia. Amen. 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 Si vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ, il est incomparable, vous dites Amen et que ses grâces, ses bénédictions vous accompagnent. Amen, amen, amen. Nous sommes comme cela arrivés au terme de notre émission de ce jour. S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver sur cette même antenne, même jour et même heure. En Jésus-Christ, vous êtes bénis et restez tout simplement bénis. Amen, amen, amen. Contact ou pour tout conseil, n'hésitez pas d'appeler à ces deux numéros. D'abord le 677 61 93 77 et aussi le 696 36 25 40. Je reprends 677 61 93 77 ou aussi le 696 36 25 40. Vous pouvez précéder des 237 ces numéros si vous appelez hors du Cameroun. Connectez-vous aussi sur le site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot, pasteurrodrigue.com. Collectez-vous sur ce site et téléchargez tout ce qui vous intéresse gratuitement. Que la bonne main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. À bientôt et que toute la gloire, les honneurs, les acclamations reviennent uniquement au Seigneur Jésus-Christ, maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Amen.